vous êtes sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, et c'est Clap. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans Manceau, avec autour des micros Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour Pierre et Michel Lafont. Et cette semaine, les nouveautés, eh bien il y en a 9 plus 2 dessins animés pour mémoire, mais on va citer les nouveautés. EO ou IO, je ne sais pas comment on doit dire.
Non, c'est EO dans le film.
EO, d'accord,
oui,
donc
oui.
C'est polonais. Le nouveau jouet, le pharaon, le sauvage et la princesse, ça c'est un dessin animé. Black Adam, reprise en main, Belle et Sébastien, nouvelle génération, un couple. Alléluia, les mots de Leonard Cohen, ça c'est un documentaire. RMN, et puis donc les deux dessins animés pour mémoire, il y en a un qui s'intitule Bluey au cinéma, et l'autre Extra, Alan Britney et le vaisseau spatial. Voilà, pour la programmation musicale, eh bien on va commencer par Elvis Presley, mais oui, Elvis Presley, aucun rapport avec les films de cette semaine, si, on entend ce titre d'Elvis Presley dans Le Nouveau Jouet, le film dont on va parler dans 5 minutes, et le titre d'Elvis Presley c'est A Little Less Conversation,
pas le plus connu, hein.
Non, A Little Less Conversation, sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Ça s'appelle Little Less Conversation, c'est Elvis Presley, et c'est un titre que l'on entend dans Le Nouveau Jouet, le film de James Hutt avec Jamel Debbouze, dont on parle dans une dizaine de minutes. On commence notre semaine cinématographique avec Et O, c'est un film qui est proposé par les cinéastes, avec deux séances par jour. C'est un film du Polonais Jerzy Skolimowski, réalisateur, scénariste, producteur, acteur. Il n'est pas tout jeune, hein, il est né en 38. Il a son actif des courts-métrages, des documentaires, des scénarios, des scénarios plus exactement. Et puis en 65, en premier long-métrage, il s'appelait Walk Over, avec lui-même en tant qu'acteur. Et puis ensuite, des films comme en 66, La Barrière, 67, Haut les mains avec Alan Bates notamment, en 67, Le départ avec Jean-Pierre Léo, en 70, Les aventures du brigadier Gérard avec Claudia Cardinale, et puis le film qu'il a vraiment fait connaître, vraiment révélé, c'était en 70, Deep End avec Jane Asher, 72, Roi d'Âme Vallée avec Gina Lollobrigida, 78, Le cri du sorcier avec Alan Bates et Susanna York, 82, très bien, Travail au noir avec Jeremy Irons, 84, Aucun souvenir de Success is the best revenge avec Michael York, je crois que c'est inédit en France, 86, Le bateau phare avec Robert Duval, Klaus Maria Brandauer, 88, Les eaux printanières avec Nastasia Kinski, Timothy Hutton, 91, Ferdy Diurk avec Fabienne Bab, et 2008, Quatre nuits avec Anna, 2011, Essential Killing avec Vincent Gallo et Emmanuel Seigné. Et en 2015, 11 minutes. Voilà, donc la filmographie de Jerzy Skolimowski. Filmographie riche d'une vingtaine de films. I.O. ou E.O. plutôt, ça dure 1h29. Le monde est un lieu mystérieux, surtout vu au travers... À travers les yeux d'un animal sur son chemin EO, un âne gris aux yeux mélancoliques rencontre les gens bien et d'autres mauvais et fait l'expérience de la joie et de la peine, mais jamais à aucun instant il ne perd son innocence. Oui, alors ça s'appelle EO. EO, c'est l'équivalent de Ian en français.
Non, c'est son nom, hein.
Ah non, mais EO, c'est comme on dit Ian en polonais.
C'est son nom. C'est le nom de l'âne.
C'est son nom, mais ça veut, c'est comme Ian.
C'est vrai que le titre français, c'est Ian, oui.
Voilà, mais bon, de toute façon, c'est comme ça, hein. Dans les pays, on ne dit pas les mêmes choses pour les mêmes animaux, hein. Vous avez le fameux cocorico, kikiriki, et etc., etc. Bon, voilà. Donc, la revue de presse est unanime et élogieuse. Baptiste Thion, le journal du dimanche. Superbe film que cette fable signée Jerzy Skolimowski, qui rend hommage au chef-d'œuvre de Robert Bresson, au hasard Balthazar, tout en s'en éloignant. Alors, je dois reconnaître que je n'ai pas vu le film de Bresson, au hasard Balthazar. Ouais. Victoria Guérin, Le Point, le grand cinéaste Jerzy Skolimowski, prix du jury au Festival de Cannes, dresse le portrait de l'humanité à travers les yeux d'un âne. Somptueux, déclare donc Victoria Guérin. West France, Gilles Kerdreux et Hope dérouté, mais il faut vraiment tenter cette expérience cinématographique audacieuse. Car Olivier, dans 20 minutes, parle d'un conte bouleversant. Eric Nov dans Le Figaro, EO est un personnage de Dostoïevski, Skolimowski est un peintre, les séquences constituent autant de tableaux, certains coupent le souffle, tel ce plan d'un barrage crachant des flots. Sur un pont, EO stationne là, songeant à on ne sait quelle chimère. Le Parisien, le vieux cinéaste, chante la beauté à couper le souffle de la nature, des forêts, des arbres, d'un monde silencieux que l'homme défigure. Film très noir et tendre, d'une beauté foudroyante, EO nous conjure de respecter l'autre. Adrien Gombeau, Les Échos. Le grand cinéaste polonais signe un road movie hors du commun, filmé à hauteur d'âne. Drôle de récit picaresque où l'animal n'est pas un compagnon de voyage, mais le sujet du film tout entier. Une expérience de cinéma ébouriffante. Thomas Borès dans Première, assurément l'un des films les plus stimulants et passionnants de cette année 2022. Voilà ce que dit la presse à propos de EO. C'est un film où la forme compte autant, voire plus que le fond. C'est un film de styliste donc, qui nous raconte une sorte de fable, d'odyssée, dont le héros est EO, un petit âne qui, au début du film, vit dans un cirque. Il est aimé par son écuyère. Je ne sais pas si c'est une écuyère pour un âne, hein, une écuyère pour un cheval,
oui,
donc, pour un
écuyère, oui.
Qui le protège, mais... Beaucoup moins aimé par son propriétaire, qui doit malgré tout s'en débarrasser sous la pression de militants animalistes. Dès lors, EO, on va suivre bien ses aventures à travers son regard, qui scrute ses nombreux nouveaux propriétaires, tantôt bienveillants, tantôt brutaux, et qui permettent ainsi au réalisateur Skolimowski de livrer sa vision de l'humanité. Et entre ses différents propriétaires, eh bien, EO va s'évader et essayer de vivre sa vie, sa vie d'âne dans la nature sauvage. Alors, je dois reconnaître que certaines scènes m'ont échappé. Hein. Sur 1h30, il y a quelques scènes qui m'ont échappé. Je sais bien que le film évoque les sensations ressenties par Eo, et à ce titre, cela explique bien les effets de style, à la limite d'ailleurs de l'expérimental, des mouvements de caméra assez surprenants, des couleurs rougeoyantes. Est-ce que les ânes voient le rouge? Je n'en sais rien, parce que Kolimowski a l'air de le penser. Des drôles de cadrage également, et puis une musique très très forte, ouais, très expérimentale aussi. Mais c'est pas tout ça. Il y a aussi quelques séquences qui m'interrogent. Alors, une par exemple où on voit une sorte de robot, robot à quatre pattes. Alors peut-être que c'est une vision de Eo qui à ce moment-là est blessée. Pourquoi pas? Et puis surtout, alors à la fin, cette séquence avec Isabelle Huppert qui m'a complètement laissé dubitatif, puisque Eo n'en est absolument pas partie prenante, et dont le sens reste un mystère entier pour moi. Mais bon, ça, c'est celle qui m'a le plus laissé dubitatif. Il y en a quelques autres aussi qui m'ont un petit peu interrogé, pour lesquels je n'ai pas de réponse. Le film, donc, c'est un plaidoyer pour la cause animale, maltraitée, exploitée par les humains, de toutes les manières possibles, cruauté envers les animaux, élevage, maltraitance, bêtise absolue, ça c'est l'épisode des supporters.
Oui.
Bon, ça c'est la bêtise absolue. Bref, l'humanité, à quelques rares exceptions, n'en sort pas grandi face à l'innocence des Eo, animal éminemment sympathique qui n'a rien demandé de ce qui lui arrive. Mais bon, ça c'est le cas de tous les animaux. Hein. C'est certes un peu simpliste comme approche, mais on peut quand même adhérer aux propos des auteurs, car il est bien vrai que le comportement de certains humains avec les animaux est abject. Voilà, Kolimowski a donc ici réalisé un objet filmique original, sans nul doute, mais peut-être trop expérimental dans la forme, par instant, pour mon goût personnel. À toi, Pierre.
Ah bah, j'avoue que j'étais un peu inquiet en allant voir ce film. Un âne comme personnage principal? Ah bah, dites donc. Alors, je me suis dit, un âne qui parle? Un âne qui pense? Non, en fait, Eo, c'est un âne qui exprime ses émotions. Ses émotions envers le bien et le mal chez les êtres humains. Et le mal, malheureusement, domine nettement le bien dans ce film. Le bien n'étant guère exprimé que par l'amour que lui porte la jeune fille du cirque. Interprétée par Sandra Drimalska, j'espère que je ne l'ai pas écorché.
Ah non, certainement pas.
Le mal, lui, est omniprésent au travers des animaux maltraités, des abattoirs, en passant par les supporters de football, de farouches hooligans. Et puis soudain, une apparition, Isabelle Huppert. Mais qu'est-ce que tu fais là, Isabelle, dans un film polonais, aux consonances parfois anglaises et italiennes? Eh bien, il y ajoute une pincée de français dans une apparition, c'est vrai, très brève, en comtesse. Ce film étrange est inspiré, tu l'as dit Michel, de Au hasard Balthazar de Robert Bresson. Il a quand même obtenu le prix du jury au dernier festival de Cannes. Alors, dernier avertissement quand même, bien que ce soit un âne, ce film n'est pas spécialement pour les enfants. Hein.
Non, absolument pas. Non. Vraiment, surtout pas même d'ailleurs. Voilà, ça s'appelle Eo et c'est proposé par les cinéastes avec 2 séances par jour. Le nouveau jouet, lui, est davantage distribué, puisqu'on peut voir une copie au Colisée, une au Méga CGR et une au Pathé Quinconce. Le nouveau jouet, c'est un film de James Hutt. James Hutt, réalisateur, scénariste, dialoguiste, producteur, né en 66. Il a commencé par le court-métrage, et puis en 98, un premier long avec Michel Larocque et Albert Dupontel. Serial Lover, et puis en 2004, Brice de Nice. Et oui, c'est de lui, Brice de Nice, avec Jean Dujardin et Clovis Cornillac, et Bruno Salomon, bien sûr. 2006, ça c'était beaucoup moins bon, Hellphone, avec Jean-Baptiste Monnier. 2009, c'était pas non plus exceptionnel, Jean Dujardin, Michael Youn et Sylvie Testu dans Lucky Luke. 2011, Un bonheur n'arrive jamais seul, avec Sophie Marceau et Gad Elmaleh. 2016, Brice 3. Et 2019, Rendez-vous chez les Malawas, avec Christian Clavier, Michael Youn, Ramzi Bedia. Voilà, donc, pour la filmographie de James Hutt. La durée du nouveau jouet, 1h52. Samy vit heureux dans une cité de banlieue. Ah, Samy, c'est Gad Elmaleh. Jamel Debbouze, pardon. Vit heureux dans une cité de banlieue entre ses amis, voisins et sa femme Alice. Pour l'anniversaire de son fils, l'homme le plus riche de France fait ouvrir le grand magasin qui lui appartient. Alexandre choisit Samy, le gardien de nuit, comme nouveau jouet. Alors, qu'en pense la presse? Eh bien, Étienne Sorin dans Le Figaro parle d'une comédie sociale et populaire dans laquelle le protagoniste conseille à un enfant la lecture du Baron Perché d'Italo Calvino, et ça ne peut pas être complètement raté. En l'occurrence, le nouveau jouet est presque complètement réussi. La rédaction du Parisien, heureusement, l'invraisemblance du scénario est matérialisée par des décors dignes d'un conte, surtout Jamel, servi par des gags ultra efficaces, est absolument hilarant. Julien Barcillon dans Télé 7 jours, pertinent et plutôt divertissant. le journal du dimanche, porté par la mise en scène cartoonesque de James Hutt. Cette comédie familiale, un peu longue, fait s'affronter le monde d'en haut et le monde d'en bas, épinglant les travers de l'un et de l'autre, avec un même humour potache et une ironie toujours ludique. Rappel, le film est pour... Il est possible de le voir au Colisée, au Méga CGR et au Pâté Quinconce. C'est le remake, ou le remake, du film de 1976 de Francis Weber avec Pierre Richard. Donc sur le plan d'histoire, on reprend la même trame et on l'adapte au goût du jour. Et il n'y a donc pas vraiment de surprise pour qui a vu le film de Francis Weber, mais 76, ça fait quand même très loin. Donc si vous l'avez vu, c'est peut-être à la télé en fait. Donc ici, eh bien, on a Samy. Samy, c'est un brave gars, un peu glandeur. Il vit heureux dans sa cité de banlieue, entouré de ses potes, avec sa femme qui attend un enfant de lui. Pour faire bouillir la marmite, il a accepté un poste de gardien de nuit dans un grand magasin. Et c'est là qu'Alexandre, le fils unique, enfant roi, d'un homme ultra riche, on pense à Bernard Arnault par exemple, hein, ce genre de personnage, voilà. Eh bien, ce fils unique de Bertrand, enfin pas de Bernard Arnault, mais bon, ce fils unique l'aperçoit et surtout le choisit comme jouet pour son anniversaire. Et comme c'est le fils du patron, personne ne contrarie ce gamin, personne n'ose contrarier ce gamin infect et exigeant. Donc la transaction se fait, transaction insolite, Samy ne pouvant refuser l'offre financière très généreuse de cet homme fortuné. Voilà, donc l'aventure commence entre Jamy, Alexandre et son père. Alors sur le fond, on est dans la caricature totale et absolue, hein, les riches égoïstes, froids, sans scrupules, ou le moindre sentiment pour son prochain, d'un côté, face aux pauvres, sympathiques, généreux, bienveillants et solidaires, issus de la diversité, comme on dit aujourd'hui, en plus, de l'autre côté. Donc on est dans l'origine de la pure comédie, on peut accepter les clichés, hein, parce que c'est vraiment quand même des purs clichés, hein. L'évolution de l'histoire, elle aussi, est prévisible. Hein, c'est l'opposition de caractère et des modes de vie. Puis, alors, les riches, les pauvres, le mâle blanc de plus de 60 ans contre le jeune immigré, enfin, jeune, Jamel Debbouze n'est plus si jeune que ça, issu de la génération, etc. Bon, bref, opposition des caractères, opposition des modes de vie, puis, évidemment, rapprochement, complicité naissante et rédemption chez les riches, bien entendu. Voilà, donc ça, c'est du classique. En fait, ce qui fait l'intérêt du film, ce sont les scènes avec Jamel Debbouze. Voilà, dont la vis comica trouve ici à s'épanouir pleinement. Alors certes, il fait du Jamel, avec ses dialogues hilarants, son phrasé hésitant, mais il le fait si bien qu'on ne va pas lui reprocher de faire du Jamel. Voilà, c'est comme quand on reprochait Belmondo de faire du Belmondo, on savait ce qu'on allait voir, et bien voilà, c'est comme ça, De Funès, c'était les grimaces, voilà, bon, mais Jamel Debbouze, c'est un dialogue hilarant, des approximations, voilà, bref. Face à lui, il y a Daniel Auteuil, qui est parfait, en monstre froid, sans émotion, et puis le jeune Simon Falliou, lui aussi impeccable, en petite tête à claque, qui va trouver un Samy, celui qui va lui apprendre à s'humaniser. Donc c'est un petit peu un récit d'apprentissage aussi, voilà ce film. Le film regorge quand même de scènes drôles. La verve de Jamel est savoureuse. Ça donne un film plaisant qui devrait plaire à un public familial. N'oublions pas que ce soir, ce sont les vacances scolaires qui commencent. Et c'est un film parfait pour les vacances scolaires à aller voir en famille. Voilà, ça s'appelle Le Nouveau Jouet.
Bah, je l'avais vu à la télé, moi, l'ancien.
L'ancien, oui, c'est probable. Oui, Le Nouveau Jouet, on peut le voir au Colisée, au Pâté Quinconce. Oméga CGR. Alors, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse, ça, c'est un film d'animation. Alors, il est proposé pour le moment uniquement au Méga CGR, mais à partir du moment où les vacances vont commencer, c'est-à-dire à partir de ce soir, il y aura également des séances au cinéaste dans le cadre de Graines d'Images Junior. Mais ça, on vous en parlera.
On va en parler
à la fin,
tout à l'heure. Oui.
Parce que ça va être la spécialité de Pierre, de parler de Graines d'Images Junior.
Les enfants.
Donc, Le Pharaon, Le Sauvage et la Princesse, c'est un film de Michel Osselot, un dessin animé. Michel Osselot, il est très connu, réalisateur, scénariste, dialoguiste, né en 43. Il a à son actif de très nombreux courts-métrages d'animation, mais celui qui l'a rendu le plus célèbre, bien entendu, c'est 98, Kirikou et la Sorcière. Voilà. Et alors, depuis, il a en 99, Prince et Princesse. 2005, Kirikou et les Bêtes Sauvages. 2006, Azur et Asmar. 2011, Les Contes de la Nuit. 2012, Kirikou et les Hommes et les Femmes. 2016, Ivan Tsarevitch et la Princesse Changeante. Et 2018, Dilili à Paris. Voilà, ça c'est la filmographie de Michel Osselot. Donc, Kirikou, vous en avez forcément entendu parler. Alors, 1h23 pour ce pharaon, ce sauvage, cette princesse. Trois contes, trois époques, trois univers. Une épopée de l'Égypte antique, une légende médiévale de l'Auvergne, une fantaisie du XVIIIe siècle dans des costumes ottomans et des palais turcs, pour être emporté par des rêves contrastés, peuplés de dieux splendides, de tyrans révoltants, de justiciers réjouissants, d'amoureux astucieux, de princes et de princesses n'en faisant qu'à leur tête, dans une explosion de couleurs. Caroline Vivier dans 20 minutes, Égypte antique, Auvergne médiévale et Turquie du 23e siècle. 23e siècle, non, 18e siècle. 18e siècle, pardon, c'est mal, une erreur d'impression. Servent de toile de fond à des histoires magiques dont l'esthétique s'adapte au décor. Fresques égyptiennes, silhouettes noires et dessins luxuriants sont au rendez-vous d'un triptyque magique. Stéphane Dreyfus-Lacroix, fidèle à son style raffiné, Michel Osselot allie pertinence du message et beauté de l'ouvrage. Le Figaro pour le pharaon, le sauvage et la princesse. L'inspiration de Michel Osselot est née des contes populaires. À voir. Marius Chapuis, Libération, agglomérat de trois contes de longueur inégale. Ce film peut facilement être vu comme un petit film, sauf qu'il n'y a rien de petit dans le cinéma d'Osselot, où même la plus modeste des histoires se charge de grands sentiments. Anne-Flore Hervé dans West France. Comme toujours, le réalisateur a le souci du détail. Son animation minutieuse, esthétique et gourmande sert à merveille le propos. Laurent Gian dans Télé 7 jours parle d'un émerveillement à propos de ce film. Télérama, Cécile Mury. On traverse sans surprise la lente première partie égyptienne pour trouver un bonheur attendu mais réel dans les deux autres histoires nettement plus vives, oniriques et malicieuses, où la beauté des princes, sauvages ou déchus, se mêle aux amours contrariés et à la cruauté des parents avant une fin heureuse en forme d'ode à la liberté. Et enfin, Le Monde. Esthétique abstraite de bas-relief pour le premier, ombre chinoise pour le second, ballet luxuriant grand siècle pour le troisième. La forme toujours très travaillée ne laisse toutefois guère de place au récit et aux personnages réduits à leur plus simple expression. On frôle ici le décoratif. Je ne suis pas un hyper fan de Michel Osselot, donc je ne me suis pas déplacé pour aller voir ce pharaon, ce sauvage, cette princesse, mais rien ne vous empêche de le faire, puisque le film est proposé au méga CGR et dans le cadre de Graines d'Image Junior, oui. Au cinéaste. Alors là, il faut choisir parce qu'il y a beaucoup de films qui sortiront dans Graines d'Image Junior, donc il faut aller chercher le petit fascicule. Mais sinon, de toute façon, il y aura une séance par jour à partir de samedi. Pas de problème pour aller voir ce pharaon, ce sauvage et cette princesse. Pareil, d'ailleurs, je n'ai pas prévu d'en parler pour le film qui s'appelle Yuku et la fleur de l'Himalaya, qui a dû aussi sortir cette semaine ou la semaine dernière, et qui a des séances à partir de demain, tous les jours. Voilà, pour les enfants. Et ça, dans le cadre de Graines d'Image, on en reparle après. Pause musicale. Tout à l'heure, Pierre Barry va vous parler du film Alléluia, les mots de Leonard Cohen, qu'il a vu. Oui. Eh bien là, c'est le moment de parler, non pas de parler, mais d'écouter Alléluia. La fameuse chanson Alléluia de Leonard Cohen sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Et cette chanson, on l'entend abondamment, semble-t-il, dans le film.
J'ai pas l'année.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the baffled king composing hallelujah. Hallelujah.
Alléluia, Leonard Cohen. C'est un titre de 1984 qui a été abondamment repris depuis. Black Adam. Black Adam, c'est un film qu'on peut voir au Colisée, au Méga CGR, au Pâté Quinconce. C'est un film de Jaume Collet-Serra. Je ne suis pas du tout sûr qu'on me dise Jaume, parce que c'est espagnol, donc Jaume peut-être, mais ce n'est pas sûr parce que c'est catalan, donc je ne sais pas.
C'est un J.
J, oui.
Ouais, c'est R.
C'est pas sûr en catalan, c'est pas sûr.
C'est pas sûr.
Et non. Donc, c'est un réalisateur-producteur espagnol, né en 1974. On l'a découvert en 2004 avec La Maison de Cire. En 2006, Gold 2, La Consécration. 2009, Esther, avec Vera Farmiga et Peter Sarsgaard. On a vu le Esther 2, enfin, on l'a vu. Il est sorti il n'y a pas si longtemps que ça, il est peut-être encore à l'affiche même. 2011, Sans Identité, avec Liam Neeson, Diane Kruger. Et alors, il faut savoir que Liam Neeson va devenir l'acteur fétiche de Jean-Luc Colessera. 2014, en effet, Liam Neeson dans Non-Stop avec Julianne Moore. 2015, Liam Neeson avec Ed Harris dans Night Run. 2016, Infidélité à Liam Neeson. Instinct de survie avec la très belle Blake Lively. 2018, The Passenger avec Liam Neeson, Vera Farmiga. 2021, Jungle Cruise avec Dwayne Johnson et Emily Blunt. Eh bien, désormais, le nouvel acteur fétiche de Jaume Collet-Serra, c'est Dwayne Johnson, puisqu'on le retrouve dans ce Black Adam. Black Adam 2h05, dans l'Antiquité, ou plutôt dans l'Antique Kandak, l'esclave Tet Adam avait reçu les super-pouvoirs des dieux. Mais il en a fait usage pour se venger et a fini en prison. 5 millénaires plus tard, alors qu'il a été libéré, il fait régner sa conception très sombre de la justice dans le monde. Refusant de se rendre, Tet Adam doit affronter une bande de héros d'aujourd'hui qui composent la Justice Society, Hawkman, le Dr. Fate, Atom Smasher et Cyclone, qui comptent bien le renvoyer en prison pour l'éternité. Car on y vient dans 20 minutes, ce film spectaculaire mérite vraiment d'être dégusté sur grand écran. Pierre Lun dans Première, réalisé sans beaucoup d'originalité, mais avec un certain savoir-faire, bardé d'effets spéciaux et de scènes apocalyptiques déjà vues, Black Adam ne révolutionnera rien, se contentant d'offrir la promesse standardisée et de saison de blockbuster super-héroïque. Renaud Barognan, Le Parisien, Black Adam accumule à notre sens trop de défauts pour ne pas finir aux oubliettes des films de super-héros. C'est probablement ce que pense également Augustin Pietron Locatelli dans Télérama. L'ambiance de baston général laisse peu de place à la réflexion. Il s'agit globalement de déterminer qui régnera sur Kandak, un pays imaginaire. Jaume Collet-Serra, réalisateur de la bonne surprise de Shallows. The Shallows, c'était Instinct de survie. Hein. S'en sort sans déshonneur. Et le monde Thomas Sorel. Thomas Sautinel, les effets spéciaux curieusement désuets, la laideur de l'image et des décors, et surtout le manque d'imagination des acteurs, à commencer par le premier d'entre eux c'est Dwayne Johnson, granitique de bout en bout, exacerbe encore l'impression de contrefaçon ratée. Je ne suis pas allé voir Black Adam, et Pierre non plus d'ailleurs.
Non, non. Voilà, bah, c'est pas mon genre de film.
Je suis très fan de ce genre de cinéma. Black Adam, n'empêche que c'est au Méga CGR, au Pâté Quinconce et même au Colisée. Je ne suis pas sûr qu'il y a de la VO, mais peut-être, après tout, il y a une séance en VO de temps en temps. Ce n'est pas impossible, notamment au Pâté Quinconce ou peut-être au Colisée, je ne sais pas. Bref, reprise en main, on repart cette fois-ci au cinéaste. Reprise en main est un film qui a droit à une ou deux séances par jour. C'est un film de Gilles Perret. Gilles Perret, jusqu'à maintenant, il a fait essentiellement des documentaires, et c'est son premier long métrage. Alors, les documentaires, il en a fait notamment en 2006, Ma mondialisation, 2009, Walter retourne en résistance, 2012, De mémoire d'ouvrier, 2013, Les jours heureux, 2016, La sociale, 2017, L'insoumis, 2019, Je veux du soleil, 2021, Debout les femmes. Et il a co-réalisé avec François Ruffin, le député de la France Insoumise, notamment « Debout les femmes ». Et puis, il avait réalisé le fameux « Merci patron ». Parce qu'on parlait de Bernard Arnault, ça concernait Bernard Arnault. « Merci patron ». Et « Je veux du soleil ». Voilà, donc ça, c'est ton premier long-métrage de fiction à Gilles Perret. Reprise en main, 1h47. Comme son père avant lui, Cédric travaille dans une entreprise de mécanique de précision en Haute-Savoie. L'usine doit être de nouveau cédée à un fonds d'investissement, épuisé d'avoir à dépendre de spéculateurs cyniques. Cédric et ses amis d'enfance tentent l'impossible, racheter l'usine en se faisant passer pour des financiers. Très partagé de l'opinion de la presse. Michael Mélinard dans L'Humanité. Cinéma comédie sur fond de bataille pour le rachat d'une entreprise entre un fonds d'investissement et un collectif d'employés, reprise en main, réenchante la lutte sociale. François Forestier dans l'Obs, c'est réconfortant, chaleureux, sympathique, une sorte de bouillotte sociale, on en a grand besoin. Le journal dimanche, dans le journal dimanche, naviguant entre humour et émotion, le récit porté par des acteurs impeccables, c'est lui par ses qualités d'écriture. Éric de Robert dans la revue Positive, si ses ruptures de ton peuvent parfois déconcerter, le scénario s'adosse à quelques seconds rôles finement esquissés, Marie de Nardot, Jacques Bonafé, et à la complexité schizophrénique des deux personnages principaux. Les deux personnages principaux, c'est Pierre Deladonchan et Grégory Montel qui les incarne. Ludovic Béot les incarne-t-il ? Hélas, là où le documentaire permettait à Perret de saisir le réel qui déborde à l'image dans toute sa complexité, l'excès de didactisme du scénario de reprise en main et son récit trop mécanique où chaque personnage est souvent réduit à une fonctionnalité font plonger cette première tentative de fiction dans une imitation généralisée du réel. Thomas Borez, quelque part dans Première, quelque part entre le cinéma de Ken Loach et de Stéphane Brisé, ben oui, j'ai prévu de le dire, ça, Perret use des outils du cinéma pour créer du suspense et donc maintenir une tension censée nous accompagner jusqu'au bout de cette lutte des classes. Malheureusement, son scénario trop schématique et manichéen désamorce toute complexité. Le Figaro, las, l'intrigue est trop schématique, naïve et manichéenne. Perret ambitionne une fiction utopique à la Frank Capra. On se trouve plutôt dans Caméra Café. Bah, au Caméra Café, c'était très bien, Caméra Café. Sandra Onana, Libération, empruntant poussivement à la comédie de braquage et au buddy movie, reprise en main, cumule toutes sortes de problèmes. De jeu approximatif, jusqu'au malaise de ton, dominé par une masculinité bourrue à la papa, d'écriture pétrie de lourdeur édifiante. Ben, moi, j'ai plutôt apprécié ce film qu'on peut voir, donc je le répète aux cinéastes. Moi, j'ai plutôt apprécié. Je dirais que c'est une comédie sociale. C'est un petit peu dans l'esprit donc, des films de Ken Loach, mais disons, davantage dans un registre de pure comédie quand même. Et donc, c'est un film où des copains d'une vallée alpine vont tenter de sauver l'entreprise de métallurgie, jadis entreprise familiale, où l'un d'entre eux travaille comme son père avant lui. Et donc, cette entreprise avait été rachetée à un moment par un fonds d'investissement qui veut la revendre à un autre fonds d'investissement spéculatif, avec évidemment plan social à la clé. Donc les amis, devenus une sorte de pieds nickelés de la finance, se lancent dans la création de leur propre fonds pour racheter l'entreprise. Donc on vous explique dans le film, c'est un petit peu créer son fonds d'investissement pour les nuls. Hein, comment on peut créer son fonds d'investissement ? Voilà, il y a un conseiller qui a sympathisé avec l'un des héros qui explique comment il faut faire. Donc c'est un film satirique qui entend dénoncer les pratiques managériales contemporaines peu soucieuses du sort des salariés. Et puis ça entend également dénoncer les fonds vautours qui font peu de cas de l'humain, incarnés ici par les ouvriers de l'usine qui entendent défendre leur outil de travail. Le film, même s'il utilise un vocabulaire financier très technique, reste quand même accessible au grand public, parce que je répète, il a des vertus pédagogiques, ce film. Et en utilisant l'art de la comédie, il montre les nuisances d'un certain capitalisme financier pour lequel le profit est l'alpha et l'oméga de toute décision. C'est un film plaisant. Les auteurs ont choisi le registre du divertissement. Ça, c'est très différent, bien entendu, d'un Stéphane Brisé, hein, qui, lui, fait dans un registre plus réaliste, plus dramatique. Et donc, ils ont fait le choix du divertissement en faisant le choix de personnages sympathiques, malins, aptes à utiliser la ruse face à l'adversité. Donc, on va parler d'un conte social, prônant la solidarité avec des personnages qui sont attachants, interprétés par un collectif d'acteurs impeccables, donc Pierre Deladonchan, Grégory Montel, Laetitia Doche, etc. Moi, je n'ai pas détesté du tout, hein, reprise en main. Ça passe au cinéaste au moins une séance par jour. Voilà. Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. Là, on repart pour le film de divertissement pour enfants et on repart au Pathé Quinconce, au Colisée et au Méga CGR pour ce film de Pierre Corré. Pierre Corré avait réalisé en 2017 Sarah, un dessin animé, et en 2018 L'Aventure des Marguerites, un film de fiction avec Alice Paul et Clovis Cornillac. Alice Paul, on la retrouve dans... Non, c'est pas Alice Paul qu'on retrouve là, c'est Alice David, je vais confondre, c'est des Alice, moi. Bien, et donc, Pierre Corré, eh bien, c'est un réalisateur, scénariste, producteur, né en 69. 1h36 pour la durée de Belle et Sébastien, Nouvelle Génération. Sébastien, 10 ans, passe ses vacances à contre-cœur à la montagne chez sa grand-mère et sa tante. Il doit donner un coup de main à la bergerie, rien de bien excitant pour un garçon des villes comme lui. Mais c'est sans compter sur sa rencontre avec Belle, une chienne immense et maltraitée par son maître. Prêt à tout pour éviter les injustices et protéger sa nouvelle amie, Sébastien va vivre l'été le plus fou de sa vie. Alors, Isabelle Magnette et les 7 jours, si comme dans l'œuvre originale, apprendre, grandir, transmettre forme le moteur de l'histoire d'amitié entre Sébastien et Belle, le film ne rate pas l'occasion d'aborder la préservation de l'environnement, pour une fois, sans mièvrerie ni trop de manichéisme. Corinne Renaud-Nativelle dans La Croix, à défaut d'une réelle originalité, on retrouve dans cette nouvelle version les ingrédients du succès. L'amitié salvatrice d'un enfant et d'un chien, tout comme d'époustouflants paysages de montagne qui donnent au film les vertus bienfaisantes d'une grande bouffée d'air frais. Et la rédaction du Parisien, si on tremble un peu lors de l'attaque de loup, on peine à s'émouvoir pour des personnages franchement antipathiques, entre la grand-mère brutale, la tante égoïste et Gasse, improbable de cynisme. Même le chien manque de charisme, et ce bel Sébastien lui manque de chien. Je ne vous... Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire dans la presse à propos de Belle et Sébastien, nouvelle génération? Alors, je l'ai vu, je ne sais pas que je sois grand fan de Belle et Sébastien, mais il y avait évidemment première un dimanche après-midi. Donc, pourquoi pas? Alors, évidemment, je ne suis pas le public visé par ce genre de film. Hein. Le public visé, c'est clairement celui qui est constitué de jeunes enfants, pré-ados, qui, sans nul doute, apprécieront ces nouvelles aventures rebootées, comme on dit. Hein. C'est comme ça qu'on dit aujourd'hui. Le film se situe en effet de nos jours, alors que les Belle et Sébastien originaux se situaient plutôt dans les années 60. Donc Sébastien, ici, c'est un jeune garçon, un petit citadin, envoyé à contre-cœur passer ses vacances chez sa grand-mère, bergère dans les Pyrénées. Oui, là aussi, c'est nouveau, parce que les autres Belle et Sébastien se passaient dans les Alpes. Bon, donc c'est une mamie pas du tout gâteau, et même un brin revêche, qui a d'autres choses à faire que de garder son petit-fils, et notamment préparer la transhumance de ses moutons et brebis vers l'alpage, alors normalement on devrait dire l'estive, puisqu'on est dans les Pyrénées, mais bon, on va dire l'alpage, où elle possède une bergerie. Alors, bah, Sébastien rencontre Belle, une chienne, pas tout des Pyrénées, bah, ça c'est comme dans Belle et Sébastien bien sûr, maltraitée par son propriétaire, et donc une amitié née entre le garçon et la chienne, et cette amitié va faire que les deux vont devenir inséparables et des héros l'un pour l'autre. Alors, on va pas se mentir, hein, c'est gentil tout plein, c'est bourré de bonnes intentions, on aimera cette relation faite de complicité entre Belle et Sébastien, la relation également entre le garçon et sa grand-mère, qui évolue au cours du film, passant de l'animosité à la tendresse, on détestera le méchant qui veut du mal à Belle, hein, méchant vraiment, hein, celui-là on ne peut pas l'aimer. Et puis on appréciera les beaux paysages pyrénéens, hein, il m'a semblé reconnaître un petit peu du côté du cirque de Gavarni, les images de la nature et des animaux du coin, il y a une marmotte par exemple, des loups, voilà. On saluera même la prestation de Michel Larocque, je n'avais pas vu. Michel Larocque, aussi bonne actrice dans un film depuis bien longtemps, à croire que dans un rôle dramatique, elle est meilleure que dans ses propres comédies. Alors certes, le film est naïf en diable, hein, mais ça ne gênera pas du tout le jeune public, mais il permet d'évoquer en filigrane eh bien, les différentes richesses que représente la montagne et les façons d'exploiter ces richesses, l'élevage pastoral, le tourisme, et puis les conflits d'usage entre les différents acteurs de la montagne, comme on dit. Alors certains enjeux écologiques comme l'utilisation des ressources en eau, sont également bien vus dans le film. Donc, ce n'est pas si mal que ça, mais c'est, je répète quand même, surtout à destination essentiellement du jeune public, pré-ado, 8-12 ans à peu près.
Ah ben, ça tombe bien, les vacances arrivent.
Exactement, voilà. Allez, pause musicale, on revient au film Le Nouveau Jouet. Le titre, c'est Money, mais ça n'a rien à voir avec le titre des Pink Floyd. C'est une chanteuse qui s'appelle Lady, qui vous interprète ce Money sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Ben, je sais pas pourquoi ça part. Ah oui, non, je sais pourquoi ça part pas.
Bye.
Money, un titre qu'on entend dans le film Le Nouveau Jouet. Alléluia, les mots de Leonard Cohen, c'est un documentaire proposé par les cinéastes, 1h58, attention, il n'y a même pas une séance par jour, il y a des jours où il y a off pour Alléluia.
Samedi par exemple.
Il a créé une des chansons les plus mythiques de l'histoire, à la fin des années 60, Leonard Cohen signe comme Bob Dylan chez Columbia et devient une légende, mais sa carrière prendra un tournant inattendu. Découvrez l'histoire qui l'amènera à se reconstruire et à s'affirmer comme l'un des artistes les plus importants de notre époque, une inoubliable balade à travers la chanson qui a marqué nos vies. Très partagé, la revue de presse. Le Parisien, au soir de sa vie, Leonard Cohen, qui a davantage connu le chaos que la sérénité, a dit « Quand rien ne va plus, soit vous vous résignez, soit vous criez Alléluia et vous avancez. Ses admirateurs en auront pour leur argent, et bien plus que ça en savourant ce film d'une très grande sensibilité. » Camille Nevers dans Libération, après une première heure prudemment biographique, le documentaire consacré au poète et à la belle idée de retracer le destin d'une œuvre méjugée, devenue un hymne qui a transcendé les générations. François Gorin en Télérama, les auteurs de ce documentaire riche en archives rares et en témoignages de première main ont fait de cet hymne, plus complexe qu'il en a l'air, leur fil rouge, louable intention qui se perd un peu en chemin. Le journal du dimanche, si vous tenez Alléluia pour l'une des plus belles chansons qui soient, vous risquez de ne plus la supporter tant elle nous est servie ici jusqu'à l'écœurement. Léo Moser, Les Inoccupables, Alléluia, les mots de Leonard Cohen ne souffrent pas seulement de son format télévisuel convenu et ressassé. Il réalise la prouesse de transformer le chef-d'œuvre qu'il entend décortiquer en une ritournelle infernale. Alors, Pierre ?
Bah écoutez, je vais faire assez court, hein, parce que c'est un documentaire, donc j'ai pas vraiment eu d'inspiration. Alléluia, c'est donc une chanson à succès du poète-chanteur Leonard Cohen. Alors, je voudrais préciser que c'est un Canadien. Hein. Oui. Beaucoup de personnes croient sans doute qu'il est américain. Eh bien, pas du tout. Beaucoup d'images rares, d'interviews, de témoignages, des pointures quand même comme Bob Dylan ou Jeff Buckley. Moi, j'aurais aimé que ce soit Bob Dylan qui soit interviewé, mais bon. Indispensable pour le fan de ce genre de musique, j'ai trouvé ce documentaire un peu long tout de même, 2 heures, tout de même très intéressant. Je ne suis pas fan de Leonard Cohen, mais amateur de musique, donc j'ai quand même aimé, j'ai trouvé ça long quand même.
Alléluia, les mots de Leonard Cohen, cinéaste, pas tous les jours, au moins une séance de temps en temps. Allez, RMN, c'est l'équivalent d'IRM chez nous. C'est un film de Christiane Mungiu. Christiane Mungiu, je ne vais pas faire sa filmographie parce qu'il y a beaucoup de films inédits en France. On l'a découvert en 2007 avec La Palme d'Or, 4 mois, 3 semaines et 2 jours. Et puis depuis 2012, Au-delà des collines et 2016, Baccalauréat. Son film RMN dure 2h05. Il est proposé par les cinéastes et il a droit à 2 séances par jour. Quelques jours avant Noël, Mathias est de retour dans son village natal, multiethnique de Transylvanie, après avoir quitté son emploi en Allemagne. Il s'inquiète pour son fils Rudy, qui grandit sans lui, pour son père Otto, resté seul, et il souhaite revoir Xila, son ex-petite amie. Il tente de s'impliquer davantage dans l'éducation du garçon, qui est resté trop longtemps à la charge de sa mère Anna, et veut l'aider à surpasser ses angoisses irrationnelles. Quand l'usine que Xila dirige décide de recruter des employés étrangers, la paix de la petite communauté est troublée, les angoisses gagnent aussi les adultes, les frustrations, les conflits, les passions font surface, brisant le semblant de paix dans la communauté. La rédaction de Elle, un grand film sur la violence moderne et les peurs anciennes. Olivier De Bruyne dans Les Échos, le réalisateur roumain Christian Mungiu met en scène un village au fin fond de la Roumanie et jette un regard glaçant sur des frustrations et ressentiments qui menacent de se transformer en violence xénophobe, l'un des sommets de l'année cinématographique. Sophie Grassin-Nalops, réalisateur puissant, Christian Mungiu, montre en une succession de plans fixes la montée de la peur, la flambée xénophobe, le ressentiment contre l'Europe, les ravages de la mondialisation et les dégâts de l'éducation viriliste. Baptiste Thion dans Le Journal du Dimanche, avec son naturalisme qui parfois tutoie l'étrange, voire le fantastique, ses dialogues brillamment écrits, son interprétation convaincante, la fable sociale sombre et complexe que Christian Mungiu signe s'avère une fascinante expérience. Gilles Kerdreux dans West France, du cinéma un peu gris, classique dans sa forme mais brillant dans la description sociologique et psychologique de ses personnages. Jacques Maurice dans Télérama parle d'une fresque magistrale, mais il y en a qui n'ont pas aimé. C'est Charlotte Garçon dans Cahiers du cinéma. En faisant tout sursignifier et en portant au rouge les affects, RMN prend hélas le risque de faire de son propre film le zoo de la société qu'il dépeint et d'assigner au spectateur la place de Rudy, l'enfant quoi. Libération, la pesanteur démonstrative de l'ensemble qui ne laisse vraiment que peu d'espace au personnage pour qu'il puisse se sauver de ce traquenard, rend finalement le film aussi peu aimable que ce qu'il entend dénoncer. Et oui, donc RMN, c'est au cinéaste avec 2 séances par jour. C'est un film qui a été présenté au Festival de Cannes cette année. Et je, même s'il n'a pas eu un petit prix quelconque, enfin peu importe. Dernier film à l'affiche cette semaine, un film de Frédéric Wiseman. Frédéric Wiseman, je ne vais pas vous faire sa filmographie parce que c'est, il est très vieux ce monsieur, hein, et il a pas, plus de 90 ans et il a à son actif des dizaines de films de documentaires. Mais là, ce n'est pas un documentaire, c'est un film de fiction. Ce n'est pas son premier film de fiction d'ailleurs. Ça dure 1h03, c'est toujours proposé par les cinéastes, et ce film, donc, un couple a droit à une séance par jour, sauf dimanche. Alors, de quoi est-il question ? Léon et Sofia Tolstoï ont formé un couple hors norme, 36 ans de mariage, 13 enfants, des disputes intenses, des moments de réconciliation passionnés. Dans la nature expressive d'une île sauvage, Sofia se confie sur son admiration et sa crainte pour l'auteur de Guerre et Paix, sur les joies et les affres de leur vie commune. Allez, quelques mots dans la presse. Xavier Le Herpeur dans l'Obs, bouleversante, intense, c'est la comédienne Nathalie Bouttefeu. Et le feu sous une glace qui ne demande qu'à se fissurer. Arnaud Allais, les Inrecuptibles, une fiction poids-plume, mais d'une grande force par un maître du documentaire. Un couple à découvrir absolument. Fernando Ganzo dans Cahiers du Dimanche, c'est peut-être là que résout la beauté inaccomplie d'un couple, dans la façon dont Wiseman assume le hasard dans la fiction, à partir de quelques éléments, une actrice, un jardin proche de l'océan, une chambre avec une table et une bougie, un texte, puis laisser l'ensemble jouer librement devant la caméra. Le Figaro, Étienne Sorin, a plus de 90 ans, le documentariste américain Ose Tout, acteur chez Rebecca Zlotowski, le gynécologue, c'était lui, dans Les Enfants des Autres, il signe une fiction inspirée de la correspondance de Sofia Tolstoï avec son mari Léon. Fiction, il faut le dire vite, on peut voir. Adrien Gombeau, Les Échos. Le réalisateur propose dans ce film bref de découvrir Sofia Tolstoï, souvent poignant, le texte enchevêtre des lettres et extraits de journaux intimes. Malheureusement, Wiseman s'enferme dans un principe de mise en scène monotone qui consiste à scander ce monologue de plans de vagues, de fleurs et d'animaux. Bon, ben on n'a pas été voir.
Non, voilà. Pas du tout.
Allez, on vous annonce les films à l'affiche la semaine prochaine et ensuite, eh bien, c'est Pierre qui vous parlera de Graines d'image du Junior. Donc, pour les avant-premières, il n'y en a qu'une la semaine prochaine, ça se calme. C'est mardi soir, Plancha. La Plancha, c'est la suite de Barbecue. Voilà, c'est la même équipe, les mêmes réalisateurs et les mêmes acteurs. Alors, Plancha, avant-première à 19h30 ou 35, je ne sais plus, au Pâté, mardi soir, et à 19h45 au Méga. Les films qui sortiront donc mercredi prochain, dont on parlera, si Dieu nous prête vie, la semaine prochaine sur Radio Alpa et dans Clap, c'est Mascarade, Nicolas Bedos, je l'ai vu, c'est très bien, mais c'est un peu longué, ça fait 2h14. Plancha, Close de Lucas Dont, il y aura également La Conspiration du Caire, L'École est à nous, Les Repentis, peut-être d'autres, mais bon, je n'en sais rien. Graines d'image junior, c'est les vacances de la Toussaint, et donc à toi Pierre de nous parler de Graines d'image junior.
Alors je ne vais pas faire trop long parce qu'on est un petit peu pris par le temps. Oui, on a le temps quand même. Oui. Je vais juste vous citer les films. Hein. Alors à partir de 3 ans, Grosse colère et fantaisie.
Ça dure combien de temps cette affaire-là ?
Alors les 3 films pour 3 ans, ça ne dure que 40 minutes. Bon, hein, c'est exprès pour les petits. Le tigre qui s'invita pour le thé, ou encore Super Astico. Dès 4 ans, Youkou et la fleur de l'Himalaya, pardon.
Oui.
Dès 6 ans, on en a parlé, le pharaon, le sauvage et la princesse. Dès 7 ans, le petit Nicolas, tu l'as vu Michel ?
Oui, c'est très bien, ça y est toujours à l'affiche, il n'y a pas de problème. Oui.
Alors, dès 8 ans, les démons d'argile et la revanche des humanoïdes. Dès 10 ans, la chance sourit à Madame Nikuko. Tous ces films sont des films d'animation. Et le dernier, c'est un véritable film à partir de 12 ans qui s'appelle Comedy Queen. Alors, en ce qui concerne les animations qui viennent, il y en aura d'autres la semaine prochaine dont j'en reparlerai. Mardi, ça me paraît intéressant, à 14h, il y a le film Le Pharaon, le Sauvage et la Princesse. Et puis ensuite, on vous emmènera, les enfants, découvrir la galerie égyptienne du musée de Tessé.
Ah oui.
Et tout ça, c'est dans le prix du film. Et puis aussi, lundi prochain, à 14h aussi, après Les Démons d'Argile, initiation au modelage et création de démons en argile avec une animatrice. Alors, tous les films sont à 4€, y compris pour les parents accompagnants, donc c'est pas cher. Alors, pour avoir les horaires, évidemment, je vais pas vous les donner parce que c'est un peu compliqué. Vous pouvez soit vous rendre au cinéaste, découvrir le petit fascicule où il y a tous les synopsis des films et les horaires, ou sinon, si vous ne pouvez pas vous déplacer, rendez-vous sur graines d'image au pluriel et tout attaché, .com. Je rappelle, graines d'image avec deux S, graines et images, .com. Voilà.
Il faut savoir que Graines d'image junior, ça n'est pas que pour les cinéastes, hein. C'est dans tout le département.
C'est dans toute la Sarthe aussi, mais comme voilà. On parle des cinémas du Mans.
Exactement. Il y en a au Royal aussi.
Oui, un petit peu, c'est vrai.
Voilà, donc cette semaine, qu'est-ce qu'on peut recommander absolument ? Moi, j'ai bien aimé Reprise en main.
Bah et oh, parce que... Enfin, pour les fans de Cohen, vous pouvez aller voir Alléluia, quand même.
Oui,
pourquoi pas. C'est assez étrange, mais bon.
Allez voir L'Innocent, si vous ne l'avez pas encore vu.
Voilà, c'était la semaine dernière. Oui.
Allez, à la semaine prochaine sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Au revoir.
Thank you.